7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Politique européenne encore Michael, mais cette fois très au nord de l'Autriche, direction les Pays-Baltes.
Oui, les Pays-Baltes, pour un phénomène dont on parle très peu, mais qui est pourtant en nette recrudescence, l'exil de l'opposition russe, Nicolas. Activistes, militants, journalistes, ils sont de plus en plus nombreux à fuir la Russie. Bonsoir Marielle Vituro, en direct de Vilnius.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors actuellement chez vous, en Lituanie, Marielle, ils sont officiellement une cinquantaine d'exilés politiques, chiffre à peu près comparable en Estonie et en Lettonie, et point commun donc, tous fuient le régime autoritaire de Vladimir Poutine.
Oui, c'est exactement cela, et illustration avec Constantine Roubakine, l'une des 48 personnes qui a reçu en 2014 la protection de l'État lituanien. Son combat de longue haleine contre la construction d'une mine de nickel dans la région de Voronej en Russie pour défendre les terres noires nourricières a incommodé plus d'une personne. Et Michael, un jour de novembre 2013, il s'est retrouvé en Lituanie.
They try to arrest me.
La police a cherché à m'arrêter après avoir essayé d'organiser un guet-apens contre moi, une sorte de provocation, en me remettant de l'argent pour faire croire que j'acceptais les pots de vin. Mais tout de suite, j'ai vu clair dans leur jeu et je ne me suis pas rendu au rendez-vous. Et au même moment, j'ai reçu un appel de mon concierge qui me prévenait qu'un policier m'attendait devant chez moi. Ce jour-là, j'étais simplement parti pour régler quelques affaires, mais depuis, je ne suis pas retourné chez moi.
Et autre exemple, Marielle, le site d'information en ligne lenta.ru, qui en s'installant à Riga, la capitale balte, a changé de nom et retrouvé la liberté.
Oui, lenta.ru était effectivement l'un des sites d'information les plus populaires en Russie. Mais Michael, pour un article écrit sur le mouvement d'extrême droite en Ukraine et qui a déplu, eh bien la rédactrice en chef Galina Timchenko a été limogée. Elle a donc décidé de rouvrir un autre site d'information, Medusa, mais à Riga, la capitale lettonne. Une décision salutaire pour le rédacteur en chef adjoint Alexandre Polivanov.
We always think that it was absolute normal in Russia,
but pour nous, travailler en Russie ne posait aucun problème. Mais les événements de Crimée ont représenté une césure. Nous avons décidé de partir, car nous avons compris que la machine gouvernementale était devenue totalement imprévisible. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour nous est d'avoir abandonné nos réflexes d'autocensure, alors qu'en Russie, on réfléchit constamment. Si j'écris cela, quelles en seront les conséquences ?
Oui, tout ce qui fait fuir ces citoyens russes, l'autoritarisme du régime, la censure, la militarisation du pays, où on vient de l'entendre, l'annexion de la Crimée, eh bien tout cela, Marielle, réveille aussi les propres craintes des Baltes.
Forcément, Michael. Ils craignent tout simplement d'être les prochains sur la liste. Provocations militaires russes, notamment aériennes, font fréquemment décoller les avions de la mission de police du ciel. Les pays baltes s'arment, attendent une présence permanente de l'OTAN sur leur sol. La Lituanie a réintroduit le service militaire. Mais les Russes, tout au contraire, se sentent ici en parfaite sécurité, comme Artyom Trotsky, un critique musical très connu, installé en Estonie depuis 2 ans.
L'une des raisons pour expliquer que ces pays baltes n'ont pas une si grande importance pour la Russie, à la différence de l'Ukraine, qui est un pays slave et orthodoxe, c'est que ces pays n'ont aucune ressource naturelle monnayable. L'autre raison, c'est que ces États appartiennent à l'Union européenne et par conséquent à l'OTAN. Et quel intérêt aurait la Russie à provoquer une confrontation sérieuse avec l'OTAN ?
Les activistes russes continuent donc leur combat dans la région tout en profitant des moyens démocratiques de l'Union européenne. Mais Michael, certains experts craignent que l'opposition russe connaissent un sort identique aux Biélorusses, venus à Vilnius il y a une décennie. Ils sont aujourd'hui très divisés et apathiques, aucun changement ne se produisant dans leur pays.
Et aujourd'hui, Marielle, il n'y a pas que des opposants, des réfugiés politiques russes à venir s'installer dans les pays baltes. D'autres citoyens russes arrivent, mais là avec de tout autre motivation.
Oui, Michael, en effet, rien à voir avec l'opposition à Vladimir Poutine. Là, il s'agit pour la plupart d'hommes d'affaires qui veulent protéger leur société et viennent s'installer en Lituanie, comme Sergei Klimov de Games Insight, une société de jeux informatiques. Il a tout simplement cherché à fuir une situation trop instable. En Lettonie, Michael, la situation est un petit peu différente avec son programme de visa doré introduit en 2010. En échange d'acquisitions immobilières, d'investissements ou de dépôts de liquides dans les banques, la Lettonie a délivré des permis de séjour. C'était un moyen de sortir de la récession économique. Mais comme l'a révélé l'enquête du site d'investigation Rebaltica, des personnes très controversées et proches du président Poutine ont pu aussi en bénéficier, renforçant ainsi l'idée que la Lettonie pourrait devenir le cheval de Troie des Russes à l'intérieur de l'Union européenne. Alors en 2014, la Lettonie a imposé des conditions plus restrictives. Il faut désormais investir 250 000 euros dans l'immobilier pour en bénéficier et non plus 70 000 euros comme avant. Mais en quelque sorte, le mal est fait. La moitié des 26 banques de Lettonie travaillent avec une clientèle russe et certaines d'entre elles ont été citées dans l'affaire Magnitsky ou dans celle du milliard de dollars volé à la Moldavie.
Marielle Vitureau, correspondante de France Inter à Vilnius. Merci Marielle.
Allez, Europe encore et politique encore, Michael, mais cette fois vue de Cannes.
Eh oui, avec un festival qui, vous le savez, s'est achevé hier soir sur un palmarès très politique, puisque 10 ans après Le Vent se lève, Ken Loach a raflé une deuxième palme d'or avec Moi, Daniel Blake, film dans lequel le réalisateur britannique dénonce la casse du système social au Royaume-Uni. Et à 80 ans, Ken Loach n'a rien perdu de sa fougue militante. Toutes les questions d'actualité le passionnent encore et encore. Deux exemples. À ses yeux, l'Europe libérale d'aujourd'hui n'est pas acceptable et le Brexit non plus, il l'a dit à Cannes, à Eva Béton. Écoutez.
On vit une époque dangereuse, il y a du désespoir chez beaucoup de gens à cause de l'Europe. Regardez ce qu'ils ont fait avec la Grèce. Le programme d'austérité a jeté des millions de gens dans la pauvreté. Et l'Union européenne véhicule le projet néolibéral. C'est inacceptable. Mais en même temps, si on quitte l'Europe, ceux qui veulent que nous la quittions dans mon pays, qui font campagne en ce sens, veulent détruire les droits sociaux, pas les renforcer, on ira encore plus à droite. Donc c'est un choix terrible, soit rester dans une Union européenne dirigée par les néolibéraux, soit quitter l'Europe et être dans les mains de l'extrême droite. Et c'est un problème tactique. Je dirais que nous devons rester en Europe, mais nous devons établir des liens avec ceux qui luttent contre les programmes d'austérité, des mouvements de gauche comme Syriza, Podemos et d'autres mouvements de gauche en Europe. C'est un problème tactique, mais l'Europe telle qu'elle est n'est pas acceptable, on doit la changer.
Voilà, le réalisateur et politologue britannique Ken Loach au micro d'Eva Béton et traduction assurée par Thierry Fioril.
Palmarès, cette année vraiment très international aussi, Michael.
Ah oui, avec le Grand Prix 2016 décerné au jeune Canadien Xavier Dolan, le prix du jury au Britannique André Arnold, le Roumain Christian Mungiu qui repart lui avec le prix de la mise en scène et très belle moisson aussi pour le réalisateur iranien Asghar Farhadi. Deux prix, prix du scénario et prix d'interprétation masculine pour Shahab Hosseini dans son film Le Client. Une histoire d'honneur et de vengeance, réflexion sur le bien et le mal, et on y apprend beaucoup également sur la société iranienne d'aujourd'hui. Corinne Pellissier.
Un thriller psychologique sur fond de vengeance, l'histoire d'un homme, bien sous tout rapport, qui va basculer dans la violence le jour où sa femme se fait agresser dans leur nouvel appartement de Téhéran. Un film dans lequel Asghar Farhadi reprend tous les ingrédients qui font sa marque de fabrique, des personnages issus de la classe moyenne réunis dans un drame domestique et social.
Moi, j'ouvre toutes les fenêtres sur la réalité que je décris dans mon film. Libre à vous de choisir celle que vous voulez regarder en suite dans cette histoire. Vous pouvez choisir un angle strictement moral ou strictement sociologique ou même relationnel. Ils sont tous présents dans le film. Et quelqu'un qui n'aurait aucun intérêt pour le lieu dans lequel le film évolue pourrait se concentrer sur les enjeux moraux, par exemple. Il y a deux choses en fait qui m'inquiètent. D'une part, la transformation de personnes qui ont l'air pacifiques et civilisées en des êtres brutaux, violents et incontrôlables. D'autre part, cette violence qui apparaît chez des gens qui ne sont pas impulsifs et n'agissent pas sous le coup de la colère. Ce n'est pas une violence qui leur échappe, c'est une violence au contraire préméditée, une violence réfléchie qu'ils pensent associée à une cause juste. C'est une conviction qu'ils assument et cette forme de violence est, me semble-t-il, la plus difficile à combattre et la plus périlleuse pour notre monde.
Déjà auréolé d'un Oscar, d'un Golden Globe, d'un César et d'un prix d'interprétation féminine à Cannes pour Bérénice Bejo dans son dernier film Le Passé, Asghar Farhadi prouve une nouvelle fois qu'il sait diriger ses comédiens avec un prix hier soir pour Shahab Hosseini, découvert en 2010 dans le film Une séparation qui avait réuni en France plus d'1 million de spectateurs.
Corinne Pellissier.
Et en bref, Michael, il s'appelle Rajeh Al-Hamidani. C'est un jeune étudiant en droit, coétien, et sa vie vient de basculer.
Oui, puisqu'en 2 heures de direct télé, il est passé de parfait anonyme à véritable célébrité. Rajeh Al-Hamidani a été sacré la semaine dernière à Abu Dhabi, poète arabe de l'année, récompensé parmi 6 finalistes pour un poème dans lequel il décrit l'angoisse de l'écrivain devant la page blanche. Finale de 15 semaines d'affrontement entre 48 candidats venus de 9 pays. L'émission s'intitule Le Poète Millionnaire. C'est une sorte de The Voice ou Nouvelle Star, mais exclusivement consacrée à la poésie. Assez incroyable. Et attention, pas n'importe laquelle, hein, car le concours organisé par l'Émirat est réservé aux seuls poètes dits nabati, c'est-à-dire ceux qui écrivent non pas dans un arabe littéraire ou classique, mais dans la langue arabe telle qu'elle est parlée par les bédouins du Golfe, du Levant, d'Irak ou du Sinaï égyptien. Prose quasi incompréhensible pour un arabe non originaire du Golfe, mais ovationné au contraire par le public d'Abu Dhabi, très connaisseur. Plusieurs millions de téléspectateurs ont suivi cette finale. Et notre jeune poète auréolé de gloire repart de surcroît avec un tout petit chèque. Tenez-vous bien, 1 360 000 $. Et pour finir, direction la Cité des Anges avec ça. Alors, à votre avis, où sommes-nous, Nicolas?
Je n'en sais absolument rien.
Eh bien, on est dans le métro de Los Angeles, plus précisément la ligne Expo, dont la prolongation tant attendue a été inaugurée vendredi dernier. Une nouvelle portion d'un peu plus de 10 km de long qui relie désormais le centre-ville à la célèbre plage de Santa Monica, une plage qui n'était plus accessible que par la route depuis la disparition des tramways électriques dans les années 50. Mais en un demi-siècle, explosion du trafic routier, Los Angeles est devenue la ville la plus congestionnée des États-Unis, bouchons, pollution. Alors vive le rail, certes un peu cher, hein, selon les administrés de LA, 1,5 milliard de dollars la prolongation, mais à l'arrivée, l'océan Pacifique. À demain.
À demain, mon cher Michael. Ouais.